Swing Time 2016. Swing Time, présenté, préparé, présenté par Alain Charbonnier sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Et aujourd'hui, Alain, bonjour.
Bonjour.
Et alors, j'ai vu le titre de l'émission. On sent le prof d'histoire derrière.
Ah oui, là, ça va être historique. Hein. Je pense que je vais interroger après.
Ouais, et là, moi, je suis ravie d'apprendre ce que je vais apprendre. Certainement.
J'espère.
Je te laisse annoncer le titre.
Très bien. Eh bien, le titre, c'est Jazz sous l'occupation, avec un O majuscule. C'est bien l'occupation en France.
Eh bien, voilà.
Alors, le 1er septembre, non pas le 1er décembre, mais le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne et le dimanche 3, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. On est bien en cours d'histoire, hein?
On est jusque-là, tout va bien.
Voilà.
Là, ça me parle.
Bon, très bien. Alors, pendant près de 8 mois, il n'y a rien qui se passe à l'Ouest. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Mm-hmm. Et ça ne va pas ralentir la vie nocturne, notamment à Paris et en France en général. Même après la défaite française du printemps 40, du moins d'une partie de la France, les salles de spectacle et les cabarets restent actifs et vont rester actifs jusqu'à la Libération. Le jazz va demeurer, symbolisé par la revue Jazzot, le Hot Club de France ou le quintet du même nom, le quintet du Hot Club de France. Les disques américains arrivent un peu plus difficilement et même de plus en plus difficilement en France, mais on écoute du jazz, on trouve toujours du jazz. Bon, même s'il y a un petit peu moins de disques, ce qui désole bien sûr Hugues Panassier, Charles Delaunay, donc les deux piliers du Hot Club, ou même Jean-Marie Mas, un peu plus loin évidemment. Et en juin 40, Stéphane Grappelli, alors c'est celui qui s'écrit avec un Y à l'époque, hein, Grappelli, un Y. Hein. Ah ça fait un peu plus anglo-saxon tout de même. Il reprendra son I italien un peu plus tard. Eh bien, ce Stéphane Grappelli, le copain de Django évidemment, bah, il se trouve piégé à Londres. Ils étaient partis faire une tournée. Et dès juin 40, c'est bien sûr la débâcle en France. Django rentre aussitôt. Il a même, dit-on, oublié sa guitare. Il est parti très vite. Il voulait retrouver... Peut-être pas sa France, parce qu'il était né en Belgique, mais en tout cas sa roulotte, le paysage qui l'entourait et les gens qu'il connaissait. Et Stéphane, qui est malade, va rester à Londres. Donc le quintet disparaît dans la tourmente de juin 40. Et on va regarder, ou écouter plutôt aujourd'hui, eh bien, comment va évoluer le jazz dans l'Hexagone pendant les 4 ans de guerre. Et on verra que le répertoire va peut-être se franciser un petit peu dans les noms, mais le jazz va rester une musique à la mode et une musique très active. Et donc, on va faire une petite plongée chronologique dans l'histoire du jazz autour de l'occupation. On va partir un petit peu avant. On va partir de 1939, on va aller jusqu'en 1945 et même un petit peu après. Donc, on va partir des prémices de la guerre jusqu'aux délices de l'armistice. On va donc commencer fin août 1939. On va écouter dans un premier titre bien, un petit orchestre que je vais présenter. On sait que le quintet du Hot Club de France est en tournée en Angleterre. Il enregistre aussi pour la firme Decca. Ce sera la dernière séance d'enregistrement du quintet qui associe Stéphane et Django. Il y aura d'autres quintets après, mais pas avec ces mêmes personnages. Donc, on en a un qui repart, c'est Django. On en a un qui reste, c'est Stéphane. Il est grippé. Il se croit aussi un petit peu plus à l'abri de l'autre côté du Channel. Bon, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il y aurait le Blitz. Et que le Blitz allait déferler chaque nuit. Mais surtout, il est malade, c'est ce qu'il écrit dans son autobiographie, donc il ne peut pas rentrer tout de suite. Après, il sera coincé en Angleterre. On va donc écouter une superbe interprétation du quintet historique, le vrai, si je peux dire, avec Django et Stéphane, qui s'appelle HCQ, Hot Club Quintet Strut, disque Decca, Londres, 25 août 1939. Thank you. c'était le superbe quintet du Hot Club de France. Celui qu'on ne va plus entendre maintenant, puisqu'il disparaît avec l'année 40. Et même la fin de l'année 39, puisqu'il n'y aura pas d'autres enregistrements après. Et il faudra attendre plusieurs mois en France pour écouter de nouveaux enregistrements de jazz, parce qu'il va y en avoir. Et je vais citer un musicien américain qui est Arthur Briggs, un jazzman américain qui vivait à Paris, qui reste à Paris malgré la guerre. Il dirige un orchestre dans lequel il a embauché le pianiste Ray Stokes. C'est un autre musicien, pas très connu, un noir américain aussi. Et si on lit l'autobiographie de Bill Coleman, Trumpet Story, il parle de Ray Stokes justement. Le clarinettiste s'appelle Christian Wagner, donc lui il est français, il n'a rien à voir avec le dénommé Richard Wagner, hein, qui est de l'autre côté de la frontière. Et au ténor, on a un très bon musicien français qui est Alex Combel. On écoute un morceau de jazz américain qui s'appelle My Melancholy Baby, 13 mars 1940. Maintenant, il y a deux catégories d'auditeurs. Il y a ceux qui ont gagné le droit de continuer à écouter la suite de l'émission parce qu'ils ont reconnu Django Reinhardt à la guitare d'accompagnement. C'était même pas très facile à retrouver. Alors les autres, la deuxième catégorie, ils ont aussi le droit. Mais parce que si les premiers, oui, c'est des amateurs de jazz patentés, les autres vont le devenir.
Bon, tout le monde a sa chance.
Tout le monde a sa chance. C'est ça le jazz. Alors, on va en France, dans cette année 40, se consoler de la perte des grands orchestres américains ou des solistes américains qui bien sûr, ne font plus de tournée en France à ce moment-là. Et les Français, bon, on va applaudir les musiciens du cru, les musiciens français ou qui sont installés en France comme quelques artistes américains. Et on va entendre un orchestre formé par l'excellent ténor Alex Combel qu'on vient d'entendre, qui va composer un morceau qui s'appelle « Weekend Stomp » et qui est un hommage à Count Basie. On va donc écouter Alex Combel et son orchestre à Paris le 20 février 1940. Mmh. C'est Django Reinhardt qu'on a entendu dans le premier solo, donc qui va devenir incontournable dans tous ses enregistrements. C'est quand même le grand musicien de jazz en France à l'époque. On a entendu trois trompettistes dans l'ordre. Alex Renard, qui était annoncé par Alex Campbell, Common Renard. Et ensuite, c'était Pierre Allier. Et le dernier trompettiste d'un niveau supérieur, Philippe Brun. Et au piano, on avait encore un Américain qui était Charles Lewis. Et un musicien masqué à la batterie, un dénommé H.P. Chadel. Alors ce H.P. Chadel, on peut le retrouver parce que le H, c'est le H de Henri, le P, celui de Pierre, Henri-Pierre, Chadel, deux syllabes, Chat pour Charles, Del pour Delaunay. C'est Charles Delaunay, l'alter ego à l'époque, en tout cas, Duc Panassier. C'est une petite information qui est dans le booklet du disque, écrit, signé Daniel Nevers. Voilà. Donc, on avait Delaunay qui jouait de la batterie dans ce titre-là. Et on va entendre maintenant un artiste fort à la mode à l'époque, qui est une sorte de trait d'union entre le musette et le jazz, puisque c'est l'accordoniste Gus Wieser, Auguste pour les dames, Gus Wieser, qui enregistre une de ses compositions avec de bons musiciens français comme André Lewis à la clarinette, André Équian à l'alto, et à nouveau, Philippe Brun à la trompette. Et on va écouter Philippe Stomp. On est à Paris le 20 mars 1940. Thank you. cette fois, ceux qui ont reconnu Django Reinhardt à la guitare d'accompagnement, ben, peuvent aller se réveiller, parce que ce n'était pas lui. Mais c'était aussi un Reinhardt, c'était son frère Joseph. Alors, on va leur pardonner, parce que Joseph était très inspiré de Django, évidemment. En tout cas, ça swingait. Bon, on reconnaît un accordéon, ce n'est pas l'instrument le meilleur qui passe en jazz, mais à l'époque, ben, Gus Wieser était à la mode et jouait avec beaucoup de jazzmen, donc on peut le placer dans cette émission sur le jazz en France sous l'occupation. On va passer quelques mois maintenant, on était le 20 mars, le titre suivant est enregistré le 1er octobre 40. Entre les deux, il y a eu la défaite de la France, donc beaucoup de choses ont changé. Les artistes, effectivement, américains se sont sauvés parce que ils n'étaient pas encore, ils n'étaient pas en odeur de sainteté, même si les États-Unis n'étaient pas entrés en guerre. Et le jazz va tout de même réapparaître après les mois de débâcle et de défaite française. Et Charles Delaunay va relancer les disques swing. Et Django Reinhardt va monter un nouveau quintet du Hot Club de France. Alors, il va remplacer le violoniste Stéphane Grappelli par un clarinettiste qui est Hubert Rostin, qui joue parfois du saxo, mais là, il joue essentiellement de la clarinette. Son frère Joseph Reinhardt, le frère de Django évidemment, joue de la guitare rythmique. Francis Lucas est à la basse et Pierre Fouad à la batterie. Donc comme une batterie, le nouveau quintet du Hot Club de France est vraiment très très différent comme configuration. Et on va constater que Django donne le beau rôle à Hubert Rostin qui va prendre le saxo ténor dans ce titre-là. On va entendre un morceau. Alors est-ce que c'est de la musique américaine et une musique noire américaine? Ben on ne sait pas, ça s'appelle Indécision. En fait, si on regarde le titre, ce n'est pas Indécision, c'est Undecided, un morceau de Charlie Shaver. Donc on est bien dans de la musique noire américaine. Et on va donc écouter Indécision, Paris, le 1er octobre 1940. Thank you. en 1940, évidemment, et beaucoup de Français veulent continuer à s'amuser. Le jazz ou le swing, comme on le disait à l'époque, est un vecteur de cette recherche du divertissement. On va entendre un exemple de cette recherche de divertissement gravé le 26 décembre 1940, donc autour de Noël 40. Et ce titre est intéressant parce qu'il fait le tour du jazz français, comme c'est dit à la fin. C'est-à-dire qu'il résume l'émission, hein, pour ainsi dire. Charles Delaunay va présenter les musiciens solistes. Il va être relayé à un moment donné par Alix Combel qui annonce Hubert Rostin, qu'on a entendu à l'instant. Et Django va se présenter lui-même. On va reconnaître son drôle d'accent. On reconnaît à peine d'ailleurs le nom qu'il dit, mais c'est bien lui. Et cette rareté discographique se trouve dans l'intégrale que la firme Frémio & Associés a consacrée à Django Reinhardt. On va donc écouter maintenant Festival Swing. On est à Paris, le 26 décembre 1940.
Revira. Django Reinhardt. Français.
C'était le jazz français, comme c'est annoncé, d'une façon péremptoire. Voilà. Alors, le régime de Vichy qui était au sud, le régime collaborationniste qui était au nord, donc l'occupation allemande directe, eh bien, on cherchait à mettre en avant des thèmes français, hein, on vient de l'entendre dans cette formulation. Et le jazz, bon, il est suspect tout de même, surtout que les États-Unis vont rentrer en guerre bientôt. On se doute bien qu'ils vont rentrer en guerre. Là, on va être en mars 41, ils rentrent en guerre en décembre 41. En plus, c'était une musique pas bien normale, hein. C'est tout de même des noirs dans ces gens-là, donc c'est un peu étrange. On a bien vu tout à l'heure, le titre était déjà francisé. Alors, qui est-ce qu'on va entendre? On va entendre eh bien, la musique de Charles Trenet, qui va chanter. Et il va chanter quoi? Eh bien, une chanson très française, connue par tout le monde, puisqu'il s'agit de La cigale et la fourmi. C'est la fable de La Fontaine. C'est enregistré à Paris le 12 mars 1941.
Tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette empreinte. Nuit et jour à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien. Allez, dansez maintenant.
Ça dure surprendre plus d'un, là.
Ah, n'est-ce pas, hein. Mais la musique de Trenet a tout de même quelque chose à voir avec le jazz, hein, très souvent, donc ça va bien.
Il s'est swingé.
Absolument. Et quel était l'orchestre derrière? Il y avait un bon guitariste Django. Qu'on a dû... Et voilà, il y avait Django, effectivement. Il y avait le quintet de la Coupe de France avec Django Reinhardt, et le pianiste, c'était Léo Chauliac, qui accompagnait beaucoup de chanteurs de l'époque. Donc quelqu'un de connu, proche de la variété, mais qui s'intéressait aussi au jazz. On va écouter maintenant un autre musicien français, un bon musicien, un bon saxophoniste qu'on a déjà entendu tout à l'heure, qui est André Équian et qui a constitué un septet avec Charles Cocoquine au ténor, Hubert Rostin à clarinette, Charles Lewis, donc tous les Noirs américains n'étaient pas partis, lui était resté, Pierre Fouad à la batterie. Et on va les entendre dans une composition du fameux H.P. Chadel, c'est-à-dire Charles Delaunay, et ça s'appelle, titre en français, Palm Beach. Ben oui, c'est Palm Beach. On est en octobre 41.
Thank you.
peut le constater, le jazz demeure, alors dans des formes bien sûr plus ou moins élaborées, avec une plus ou moins grande qualité. On a des musiciens secondaires pour la musique de jazz qui apparaissent au premier plan, comme l'accordéoniste Gus Wieser, écouté tout à l'heure, ou des musiciens qui sont dans l'ombre d'un plus grand, comme Joseph Reinhardt, le frère de Django. Alors, tous ces musiciens de jazz, plus ou moins connus, mais qui ont du succès à ce moment-là, s'adressent à une jeunesse qui est un tantinet provocatrice, comme toujours la jeunesse, qui affiche surtout son goût pour la liberté, qui était importante à l'époque, évidemment. Et c'est ce qu'on a appelé les Zazou, hein, Zazou, 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 hein, tellement de jazz. Eh bien, c'est le titre du morceau suivant, interprété par des musiciens cités plus haut, plus André Louis à la clarinette. On écoute Zazou, Zazou, Paris, mars 42. La qualité technique n'était pas extraordinaire, moyenne, hein, bon, elle était moyenne, voilà, mais c'était peut-être dû à l'époque, bon, je pense, plus qu'au pressage moderne. Le guitariste était bien Joseph Reinhardt, inspiré de son frère, mais pas la puissance, pas l'inventivité de son grand frère. On va voir que le jazz français, puisque c'est celui dont on parle en ce moment, peut s'exporter. Alors on va pas aller très très loin, mais on va retrouver Django Reinhardt à Bruxelles au printemps 42. Alors, qui est enregistré avec beaucoup de grands orchestres de danse de l'époque, qui étaient installés en Belgique, à Bruxelles, comme ceux de Fudd Kendrix ou de Stan Brenders. Ils sont plutôt lourds, hein, même s'ils sont destinés à la danse. On va entendre le 16 avril 1942, Django, enregistré au studio Sobedi. Alors, Sobedi, ça veut dire Société Belge du Disque. Il est en compagnie d'un pianiste belge, pas connu du tout, qui s'appelle Yvon Deby. On écoute Distraction, Bruxelles, 16 avril 42.
Thank you.
Django est le musicien de jazz phare, évidemment, à l'époque en France, et le seul très grand musicien, disons, de stature internationale. Il va continuer sa carrière, on va le retrouver 10 mois plus tard, à Paris, cette fois, dans une nouvelle formule du quintet, qui comprend 2 clarinettes et 1 batterie, encore une nouvelle formule, assez originale, en plus de la guitare rythmique et de la contrebasse. 2 nouveaux compositeurs et musiciens apparaissent sur la scène de jazz française, puisque le morceau suivant, qui est composé par Alex Combel, là qu'on connaît, qu'on a déjà entendu, accueille un petit nouveau, prometteur, en tout cas en termes de succès dans la variété, quelqu'un qui s'achètera plus tard une belle Renault, puisque c'est Lulu Gasté, enfin je crois que c'était Lynn Renault, c'est peut-être pas une voiture. Non,
il s'est offert une Renault.
Voilà, il s'est offert une Renault, mais c'était pas une voiture, c'est une dame qu'on salue aujourd'hui, évidemment. Le titre qu'on va entendre est On ne peut plus court, on ne peut que l'approuver, puisqu'il s'agit de Oui, 17 mars 43. C'était Oui. Le monde du jazz est petit dans la France occupée, puisqu'on se rend compte qu'on retrouve toujours les mêmes musiciens, dont Django Reinhardt, ça c'est bien tout de même, hein. Et qu'on retrouve dans tous ces orchestres un petit peu toujours les mêmes personnes, avec l'esprit du quintet du Old Club qui est derrière chaque artiste, mais avec un quintet qui a beaucoup beaucoup changé. Le clarinettiste Hubert Rostin, qui est une grande vedette, monte lui, même s'il jouait dans le quintet du World Cup de France, on a vu avec Django, monte un quintet français évidemment, avec Bob Castello au piano, Eugène V à la guitare, Tony Revira à la contrebasse, Pierre Foide à la batterie. L'ombre du grand Django, qu'on n'entend pas ici, va couvrir ce chiffon qui est une composition d'Hubert Rostin, Chiffon, Paris, août 43. Hubert Rostat avait troqué la clarinette pour le ténor à la fin, on l'a entendu. Alors on va jouer au jeu des sept familles. Maintenant, dans la famille Reynard, je voudrais le frère Joseph. On va donc le prendre. Alors comme il était toujours cantonné à la guitare rythmique, il veut aussi voler de ses propres ailes, comme son frère. Il va monter un quintet, copié sur le célèbre quintet du Haute Côte de France dans lequel il jouait. Il va prendre un violoniste, un dénommé Claude Laurence. En fait, c'est un critique de jazz de l'époque qui s'appelle André Oder, qui là joue sous le nom de Claude Laurence. À la basse, à la seconde guitare avant, on a Pierre Ferret. À la basse, on a Emmanuel Soudieu. Originalité de ce quintet, c'est pas celui d'avant-guerre. Il y a un batteur qui s'appelle Gaston Léonard. On va comprendre que Joseph, on l'avait déjà un peu entendu, est fort inspiré de son frère. Mais voici une musique qu'il a écrite. Donc c'est une musique de Joseph Reynard, avec un titre bien français, Un peu de rêve, Paris, décembre 43. Après 43, c'est l'année 44, la guerre continue, elle commence à toucher à sa fin. Le jazz est toujours vivant, même s'il ne peut pas vraiment se renouveler. On va écouter un trompettiste qu'on a déjà croisé, qui s'appelle Christian Bellet. Il forme un orchestre de bonne qualité, je trouve, avec des musiciens alors plus ou moins connus, parfois pas connus du tout. Outre le chef lui-même, donc Christian Bellet, on va entendre Chico Cristobal au saxo alto, c'est pas des musiciens les plus connus. Roger Chapuis à la guitare, plus connu parce qu'il a joué avec l'autre club. Et Jerry Mango, qui va être un peu plus connu après, à la batterie. On écoute encore un titre qui est bien de l'époque, ça s'appelle 67 rue Couperin. C'était l'adresse d'un des musiciens, Christian Bellet, entre autres. Voilà, février 44, Paris. Un autre artiste se lance à cette époque, c'est M. Edouard, c'est-à-dire Eddie Barclay, un ami de Jean-Marie Masse. Il monte une formation, pas Jean-Marie Masse, Eddie Barclay, une formation de 10 musiciens. Il engage Hubert Rostin comme arrangeur. Il compose une musique à la gloire du Hot Club de France. On écoute Hot Club Swing, Paris, février 44. Thank you. Alors, je vais annoncer quelques, ou plutôt désannoncer quelques musiciens. Il y avait Emmanuel Soudieu à la contrebasse, Pierre Foide à la batterie, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, dans la nouvelle version du Quintet Yacht Club. Comme soliste, je pense qu'il y avait Christian Bellet à donner la trompette, André Louis qui jouait du ténor, Hubert Rostin qui avait pris l'alto cette fois-ci, et le pianiste était Eddie Barclay lui-même, qui avant de travailler dans la musique comme producteur, était un musicien. On est en février 1944, on arrive à la fin de l'année 1944, la France se libère, ou plutôt est libérée, en bonne partie par les troupes américaines. Le jazz, bien sûr, est plus que jamais à la mode, même si on différencie assez peu le bon grain de livret. Glenn Miller et Duke Ellington sont mis sur le même plan. Point de vue du jazz, c'est pas vraiment la même chose. Les musiciens français sont encore plus nombreux, le besoin de faire de la musique est décuplé, les gens ont envie d'écouter encore plus de musique, il y a liberté qui se retrouve, donc on a envie de s'amuser. Et on va entendre un exemple de cette atmosphère nouvelle avec une grande formation structurée par le clarinettiste Noël Chibou. C'est le premier véritable big band qui tourne en France depuis la guerre, jusque-là c'était difficile de faire un grand orchestre. Quelques musiciens sont à repérer. À nouveau, Christian Bellet à la trompette. Noël Chibou, bien sûr, à la clarinette. Léon Chauliac, déjà écouté tout à l'heure, au piano. Lucien Simoens à la basse. Jerry Mango à la batterie. Et on a même Django Reinhardt, bien sûr, à nouveau, en solo, dans la seconde partie d'un morceau qui s'intitule « Welcome ». On est à Paris le 3 novembre 1944. Thank you. à qui était désigné ce welcome ? Au libérateur, sans doute, je suppose. Hein.
Puis ils l'ont dit en anglais. Donc,
ils l'ont dit en anglais.
Donc, en américain. Oui.
Voilà, absolument. Donc c'était bien au libérateur. La guerre est donc finie, va finir en 45. On est en novembre 44, mais la France a été libérée à la fin de l'année 44. Django et Stéphane, qui s'étaient quittés à Londres en juin 40, se retrouvent en 1946. Où ça ? Eh bien, à Londres. Ils vont jouer à nouveau ensemble. Mais cette fois-ci avec trois accompagnateurs britanniques, c'est-à-dire que le quintet du Yacht Club de France d'avant-guerre ne se reformera plus, mais je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'ils vont jouer en 1946 ? Ben, un morceau intitulé « Echoes of France ». C'est dû à un auteur d'un standard très très connu, que tout le monde connaît forcément, puisqu'il s'agit de Rouget de Lisle. Donc on écoute « Echoes of France », Londres, 31 janvier 1946. Connu évidemment la Marseillaise. C'était ça, hein, Rouget de Lisle, c'est la Marseillaise. C'était normal en 1946. Et pourtant, cette interprétation a été censurée à l'époque, car certains estimaient que ça manquait de dignité. Je pense que la connerie était là, c'est éternel. Bon, il y a eu une censure, mais maintenant, bon, c'est un morceau qu'on écoute. C'est devenu un classique du jazz.
Pratiquement.
Voilà, par Django et Stéphane, en tout cas. Après 1945, donc dans la joie de la victoire et de la liberté retrouvée, la jeunesse veut s'amuser encore plus. La musique venue des États-Unis est très présente, beaucoup plus présente, plus à la mode. C'est la musique de la libération. Le jazz qui accompagnait les G.I.s connaît donc un sacré regain de mode, en particulier le style New Orleans qui va réapparaître avec un jeune clarinettiste qui s'appelle Claude Luther, jeune à l'époque évidemment, qui va faire revivre le jazz des origines en s'inspirant de la formation de King Oliver avec deux trompettes. On écoute Panama, on est après la guerre, le 23 juin 48.
Okay.
citer tous ces jeunes gens qui disent « ouf » avec la France libérée et qui swingent encore plus, évidemment. Aux trompettes, Pierre Merlin et Claude Rabani. Aux trombones, Mowgli Jospin. C'est le tonton de Lionel, Mowgli Jospin. Au piano, Chris Saadi. Au banjo, Claude Philippe. À la contrebasse, Roland Bianchini. Et à la batterie, Michel Pacou. De 1939 à 1945, on a vu que le jazz n'avait pas disparu. Bien sûr, il n'offrait plus la même variété d'artistes et même la même qualité qu'il avait avant 1939 et qu'il aura après 1945. On s'en est un peu rendu compte ici. Mais cette musique a continué à chanter les libertés sous la botte nazie et sous un régime réactionnaire. C'était celui de Vichy, celui-là. Il a retrouvé le jazz, pas le régime de Vichy, le jazz a retrouvé cette façon qui était son sens profond du temps de l'esclavage, puis de la ségrégation. C'était en fait un hommage à la liberté. Cette émission était une leçon d'histoire et un hommage à la liberté retrouvée en 1945.
Que c'est bien dit. C'était Swing Time 2016. Ah là, on n'a pas vu le temps passer.
Et on est libéré.
On est. Et une leçon d'histoire.
Absolument.
Un très bon moment. Et puis on comprend que les gens aient aimé la musique comme ça.
Voilà, hein, c'était nécessaire, je crois.
Bravo, merci. À bientôt.
À bientôt, au revoir.